Le rôle néfaste de la Gestapo à Marseille au cœur d'un ouvrage captivant.
La police politique du Troisième Reich est de triste mémoire et à Marseille, la Gestapo fut très active et malheureusement plutôt efficace. Au cœur du dispositif de renseignement, un personnage habile et polyglotte, Ernst Dunker. Sous-officier de l'armée allemande, ce petit truand berlinois pratique filature, chantage, trahison, retournement et torture, tout cela au détriment de la résistance intérieure. Dunker installe un véritable réseau qui s'appuie aussi sur les Marseillais et notamment la pègre phocéenne qui voit dans la guerre l'occasion de faire fructifier ses affaires. Dans l'ouvrage très documenté de Nicolas Balic et Vladimir Biaggi, on croise des acteurs de cette période trouble qui chassent les résistants par tous les moyens. On y apprend que l'arrestation de Jean Moulin à Caluire est due à une trahison orchestrée par Dunker. On y apprend aussi quelques révélations sur le funeste 16 juillet 1944. Ce jour-là, des résistants basalpins sont réunis à Oraison dans un café de la ville. Avec une mise en scène subtile et cynique, des Français de la collaboration arrêteront ses participants, dont Louis-Martin Brett, chef des mouvements unis de résistance, et plusieurs responsables importants. Ils seront torturés dans les locaux de la Gestapo rue Paradis à Marseille, puis fusillés après un simulacre de procès, 2 jours après leur arrestation à Signes, dans le Var. Les recherches effectuées par Nicolas Balic tiennent de l'enquête tant historique que journalistique. En fouillant dans les archives, notamment allemandes, et en retrouvant des témoignages fiables, c'est un éclairage essentiel et puissant sur un passé qui n'est pas si lointain. Cependant, il reste de nombreuses questions. Combien y a-t-il eu de personnages comme Dunker dans cette période? Pourquoi n'a-t-on pas entendu Dunker ou d'autres témoins au procès de René Hardy, ce qui aurait peut-être levé des doutes quant à l'arrestation de Jean Moulin? Ou encore, l'âme humaine est-elle si facilement « retournable » entre guillemets comme pourraient le laisser supposer les actions de la Gestapo? Autant d'incertitudes qui n'empêchent pas la lecture de ce livre aussi instructif que glaçant. Ernst Dunker et la Gestapo de Marseille est paru aux éditions Vendémiaire. Journaliste et historien militaire, je vous propose d'écouter l'un des auteurs de cet ouvrage, Nicolas Balic. Nicolas Balic, vous vous êtes penché sur la trajectoire très étonnante d'Ernst Dunker et la Gestapo à Marseille. Pourquoi avoir mis un focus sur cette période et sur ce personnage ?
En fait, tout est parti de l'ancien maire de Martigues, Paul Lombard, dont le papa avait été arrêté non pas directement par Dunker, mais par ses hommes dont on va parler, puis exécuté sur la commune de La Roque d'Anthéron le 13 juin 1944. Et il nous en avait parlé à moi-même et à mon co-auteur, Vladimir Biaggi. Donc Biaggi, sachant que j'étais historien militaire, m'a dit « Est-ce que tu peux trouver quelque chose sur ce type Dunker ? J'ai rien trouvé. » Et très vite, je tombe sur ce sous-officier allemand, qui est un ancien voyou berlinois, qui est recruté à la fin des années 30 par le régime nazi, et qui va être en poste à l'étranger, puis affecté à Paris, cassé de son grade, parce que, évidemment, le naturel revient, et à Paris, il trafique avec des voyous titi parisiens, des faubourgs, comme on disait, et qui est muté à Marseille. Et à Marseille, il va devenir, si ce n'est dans le grade, puisqu'il n'est que Scharführer, c'est un grade qui correspond à sergent-chef dans la SS. Et en 18 mois, il va se montrer, devenir le chef véritable du bureau du SIPO SD à Marseille, qui était situé rue Paradis, et faire des ravages dans la résistance. Et j'ai trouvé ce profil particulièrement intéressant. J'en ai d'abord fait un sujet de recherche universitaire, dans le cadre d'un master en histoire militaire, géostratégie, renseignement à l'IEP d'Aix-en-Provence. Et ensuite, ce livre, puisque Vendémiaire a souhaité l'éditer.
Alors, Dunker, évidemment, c'est une crapule, sans foi ni loi, mais en même temps, c'est quelqu'un de remarquablement intelligent, et en plus, il est polyglotte.
Et en plus, il travaille pour la SS, qui est un système très hiérarchisé, mais c'est une découverte que l'on fait quand on travaille sur des personnages comme Dunker, très très strict au niveau de l'organisation, de la transmission des informations, mais aussi très souple. Parce qu'on va laisser effectivement un sous-officier prendre des ordres qu'un colonel ne pourrait pas prendre. Et ensuite recruter, vous le disiez, sa propre équipe. Parce que à Marseille, il ne connaît personne. Les services allemands se heurtent non pas au silence, parce qu'il y a des collabos. Hein. La France, c'est un pays où il y a des héros, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont non pas favorables, mais qui croient à la victoire de l'Allemagne. C'est pas la majorité, je le reconnais. Mais lui, il va tout de suite utiliser ceux qui connaissent parfaitement le terrain, Ce sont les petits voyous marseillais qui ont, eux, intérêt à pouvoir continuer en toute impunité leurs méfaits, tout en livrant des informations et en arrêtant des personnes. Ils sont rétribués pour ça, pour la Gestapo.
Et Dunkerque qui va pratiquer la torture, des mésinformations, enfin qui va véritablement noyauter la résistance.
Alors au départ, donc avec cette équipe, il arrête plusieurs résistants. Et comme je l'explique dans le livre, si un résistant parle après avoir été arrêté sous la torture, parce que de toute façon même la résistance savait que la résistance humaine, Jean Moulin n'a jamais parlé, ça c'est attesté, parce qu'on va en parler de Jean Moulin. Mais un résistant, on savait très bien qu'au bout d'un moment le physique craque et qu'on parle. Donc il y avait tout un protocole. On disait, tu donnes des anciens mots de passe. Tu essaies de protéger tes collègues, de tenir un peu pour nous laisser le temps, si on n'a pas de nouvelles de toi, de nous disperser. En revanche, lorsqu'un résistant, et ça c'est une découverte, sur le premier c'était connu, quand un résistant bascule et retourné par Dunkerque, les effets sont immédiats parce qu'il a tous les noms, il a tous les réseaux, il a les points de rendez-vous, il a le pseudonyme, les alias, et surtout pendant le temps où la résistance ne sait pas qu'il a été retourné. Et c'est ce qui va arriver à Jean Multon, qui était un père tranquille, qui s'est installé à Marseille après avoir détourné la caisse de sa compagnie d'assurance, après avoir vendu ses camarades de la résistance dans la Nièvre, ça on ne le sait pas à Marseille, et qui va quand même devenir le secrétaire particulier de Chevance Bertin, qui est le patron de la résistance et du mouvement combat dans le sud-est. Il va essayer de faire arrêter Chevance, qui va s'en sortir une première fois, puis ensuite une deuxième fois, grâce à Louis-Martin Bret. Mais il va faire tomber tout un pan de la résistance en essayant d'atteindre Henri Freinet. Ils n'arrêteront que des collaborateurs de Freinet, dont s'approche Bertie Albrecht, qui sera décapité à la hache par les nazis. Et surtout, c'est grâce à cette trahison que l'on remontera la piste de l'armée secrète et que l'on remontera jusqu'à Jean Moulin avec cette arrestation de Caluire. Donc j'affirme que par ces trahisons, on a pu obtenir l'arrestation de Jean Moulin, le traître étant, et je l'affirme, quitte à avoir des critiques, parce qu'on dit c'est la chose jugée, le traître étant le chef de la résistance fer, qui est René Hardy, qui a deux fois été acquitté lors de deux procès, mais qui, d'après les pièces historiques consultées, a délibérément participé à cette réunion suivie par Klaus Barbie.
Ça veut dire que Dunkerque a participé à l'arrestation indirectement de Jean Moulin ?
Il conduit l'enquête qui va permettre de capturer Jean Moulin le 21 juin 1943 chez le docteur Dugoujon à Caluire. Il est, on va dire, le premier élément de l'enchaînement qui va conduire Klaus Barbie ce jour-là chez le docteur Dugoujon.
Et puis, dans votre livre est évoqué aussi un moment particulier dans les Basses-Alpes, c'est l'affaire d'Oraison, où l'armée secrète des Basses-Alpes, qui était commandée par Louis-Martin Bret, va être décapitée suite à un incroyable épisode qui est digne du 7e art.
On pourrait effectivement en faire un film qui serait tragique. En fait, ce qui se passe, c'est que la résistance des Basses-Alpes, le comité directeur de libération, le CDL, le comité de libération du 04, doit se réunir à Oraison. Les services de renseignement allemands, la Gestapo, l'apprend, plus la Wehrmacht, mais surtout le bureau de Digne, va tendre un véritable piège. Moi, je dis que c'est le cheval de Troie des services de renseignement, va déguiser des Brandebourgs, qui sont des supplétifs français de l'armée allemande, en résistants, va faire croire que le village est libéré, attendre que les chefs de la résistance arrivent, boucler tous les accès au village et procéder à ces arrestations, dont celle donc de Louis-Martin Bret et puis d'une vingtaine de responsables de la résistance. Ce ne sont pas des simples résistants.
Vous vous basez sur des témoignages, sur des écrits, sur des choses solides pour avancer tout cela ?
Déjà, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur cet épisode dramatique, en plus à un moment clé. On est entre le débarquement de Normandie et le débarquement du 15 août en Provence, ça c'est le premier élément. Des témoins, bien sûr, il en existe. J'ai pu d'ailleurs retrouver, grâce à Madame Thérèse Dumont, qui est la présidente de l'association de la résistance ici à Manosque, Denise Lesman, qui est arrêtée, qui était courrier pour FTP, donc pour le mouvement de résistance communiste, qui est arrêté, transféré au Baumettes, donc il fait le transfert avec les résistants dont Martin Bret, et qui va s'évader des Baumettes. Et son témoignage est très clair. Elle a vu ceux qui les ont arrêtés n'étaient pas en uniforme allemand. Ils étaient bien sûr, on va dire, costumés en résistance. C'était ça le piège. Et il parlait parfaitement français, puisqu'il l'interpelle en lui disant « Ah, mais toi, tu ressembles à une petite Allemande. » Et même un de ses gardiens lui dit « Mais avec ton âge, elle avait 16 ans. » Il lui dit « Moi, si c'était moi, je t'aurais foutu un coup de pied au derrière et puis je t'aurais renvoyé chez toi. » Mais on est avec les Allemands, donc elle fait le trajet jusqu'à Obomètre. Elle réussit à s'évader au moment où la bataille de Marseille commence, puisque les gardiens des Baumettes vont ouvrir les portes des prisons, certainement par crainte de règlement de compte ultérieur. Le problème, c'est que tous les autres participants, toutes les autres personnes arrêtées, du moins les hommes, puisqu'elle avait une camarade avec elle qui elle aussi a pu s'enfuir, vont être fusillés quelques jours plus tard dans une clairière à Signes. Et d'ailleurs, c'est un hommage qui chaque année est rendu par les habitants d'Oraison et par tous les mouvements de résistance, parce que ce jour-là, il y a le groupe d'Oraison, mais il y a aussi des résistants marseillais comme Hone, et qui sont conduits devant un simulacre de procès en pleine Pinède, amenés dans une clairière et fauchés à la mitrailleuse.
Ils seront aussi, pour quelques-uns, enterrés sans être morts. Et autrement dit, on trouvera après, au niveau de l'autopsie, de la terre, dans les poumons, ce qui voudra dire que la cruauté est totale à ce niveau-là. Mais en même temps, cet ensemble de jeunes patriotes va aussi chanter la Marseillaise à un moment.
Alors, on garde le témoignage d'un survivant, deux résistants qui sont arrêtés au moment de la première exécution, parce qu'il y a eu deux exécutions à Signes, une autre va suivre quelques semaines plus tard, quelques jours avant le débarquement. Un premier résistant est libéré, est mis de côté, est ramené à Marseille parce qu'il avait un homonyme. Donc dans l'armée allemande, enfin dans la SS, on était très disciplinés, ils avaient un nom de trop, donc un était en trop. Le second, pour une raison indéterminée, mais ce n'est probablement pas une trahison, pareil, va être écarté. Mais on a un simulacre de procès qui dure quelques secondes. Les résistants affirment, donc on sait par ces survivants ce qui s'est passé, disent que ce n'est pas réglementaire au code de l'armée. L'officier allemand leur répond, mais vous aussi, vous n'êtes pas dans le code de l'armée, vous ne portez pas d'uniforme. On les emmène pieds nus, ils marchent dans la Pinède, les cigales s'interrompent, ils chantent la Marseillaise. Et ils s'encouragent entre eux, ça on le sait par ce dernier témoin, c'est particulièrement émouvant. Quant à l'autopsie, ils vont vous parler, de la terre sera retrouvée dans les poumons de certains des fusillés, dont le charnier sera découvert que quelques semaines plus tard, ce qui veut dire qu'ils ont été enterrés vivants par les soldats allemands qui avaient procédé à l'exécution. C'est profondément émouvant. C'était quelques semaines avant le débarquement de Provence, qui va avoir une issue assez rapide, hein, puisque les principales villes de Provence sont libérées dès le 20 août, sauf Marseille et Toulon, où l'armée allemande organise la résistance quelques jours de plus.
Nicolas Bally, qu'est-ce qu'on sort indemne d'une fréquentation pendant plusieurs mois, je suppose, avec quelqu'un comme Ernest Duncker ?
Moi, personnellement, dans la mesure où je ne l'ai pas rencontré, c'est facile, hein, mais vous savez, l'objet historique, on le traite de manière froide, on est ému, je suis beaucoup plus ému par d'autres travaux, comme celui dont on avait parlé un jour sur les poilus, mais là, on est sur quelque chose de froid, mais je dirais pas qu'il est attachant, mais on démonte le fonctionnement de ce personnage. Le tout, c'est que, puisque j'ai la prétention d'essayer d'être historien, c'est d'aborder les faits historiques de manière non passionnelle, la manière la plus froide possible, et de démonter le fonctionnement de Duncker. Vous parliez d'intelligence, c'est quelqu'un qui a une intelligence froide, qui n'a pas d'état d'âme. Il préférera, s'il maintient un résistant vivant, c'est pour en tirer des informations, c'est pas du tout par bienveillance ou gentillesse. Non, c'est parce qu'il veut en tirer quelque chose. Il est capable d'ailleurs, c'est ça qui est fou, de laisser courir un résistant pendant plusieurs semaines, comme un chat surveille sa proie, pour avoir d'autres informations. Et ce qui est intéressant aussi chez Duncker, c'est que c'est un des rares nazis fusillés en France, il y en a eu une quarantaine, beaucoup d'autres, et ça je le souligne dans ce livre. Les deux grands responsables, notamment de la solution finale en France, qui sont Karl Auberg et Helmut Nocken, vont dormir chez eux, enfin mourront de leur sommeil tranquillement en Allemagne après avoir été libérés en 1954, après deux procès. Duncker est arrêté, il est jugé en 1947, donc près de trois ans, et il n'est fusillé qu'en juin 1950. Pourquoi ce temps ? Et il y a aussi, là derrière, quelque chose qui est étonnant, c'est qu'il était l'un des rares témoins qui aurait pu permettre de confondre René Hardy, l'un des traîtres de Caluire, mais on ne l'a jamais entendu dans ce procès, et il est exécuté quelques jours au moment du deuxième procès Hardy. Donc on n'entendra jamais ni Ernst Duncker, ni Jean Multon, qui avait mené et qui connaissait René Hardy. Ça reste des choses dans l'histoire. Maintenant, on aborde ces sujets pour transmettre, parce que la mémoire, elle s'en va. Et c'est une petite histoire, c'est comme on dit, l'histoire locale qui va éclairer l'histoire nationale et qui permet de comprendre au fond comment l'Allemagne a pu tenir un pays de 40 millions d'habitants avec si peu d'hommes. parce que l'armée allemande, ses services de sécurité, c'était pas des millions d'hommes. Ils l'ont fait parce qu'il y a eu des trahisons, parce qu'il y a eu des collabos et parce qu'il y a eu des supplétifs dont ceux dont on parle que Dunkerque est allé chercher dans les bas-fonds en fait hein, de Marseille et qui ont pu continuer en pillant des juifs, en vendant des résistants. C'était pas une belle période.
Aujourd'hui, cette histoire est l'histoire vraie de Dunker et de ses sbires. Vous la colportez, entre guillemets, un petit peu partout, Nicolas?
Je pense que c'est plutôt une pièce de plus. C'est une pièce qui va s'ajouter aux travaux, ceux de Jean-Marie Guillon, ceux de Robin Mancherini en ce qui concerne l'histoire de l'occupation en Provence, ceux de Jean-Pierre Azéma, que je cite parce que on est sur la même hypothèse, enfin, surtout moi, parce que lui, je n'ai pas sa qualité. Mais c'est plutôt un petit élément qui complétera cette lecture de l'occupation qui a été une lecture souvent brouillée. On a essayé de dire qu'il y avait d'un côté des résistants, de l'autre quelques collabos, mais qu'au milieu, les Français étaient finalement... Ils savaient pas trop. Non, il y a eu beaucoup plus de... Vous savez, à Marseille, il y avait plus de 500 personnes qui étaient immatriculées au bureau de Marseille. C'est-à-dire que qui étaient patentés, qui étaient des agents patentés. Et je ne parle même pas de certaines concierges qui vendaient des juifs. Moi, j'ai pas honte de le dire, ça s'est fait en France. On vendait des juifs. On en a protégé aussi. Puisque j'ai des attaches dans la région de Seine-les-Alpes, à Osé, nous avons une famille qui a été fait juste parmi les nations à Jérusalem, parce qu'elle a protégé au niveau, dans une maison au niveau du col du Fangé, plusieurs enfants juifs. On a caché des juifs à Seine, dénonciation décente de la Wehrmacht, on a caché les gens dans les caves. Donc il y avait tout un réseau de solidarité, mais il y a eu aussi des crapules. Et ces crapules, malheureusement, elles étaient souvent recrutées dans les bas-fonds. Et ces hommes-là, ça venait de la tradition marseillaise, des Sabiani, qui a quand même été un homme politique important, Carbone et Spirito.